On va le faire à ta place et on te posera des questions sur la science-fiction québécoise.
Je pense que je peux être... Non, assez inintéressant au final, sur ce sujet-là. Je ne vais pas être très bon. Bonjour, merci à vous d'être venus ce samedi matin, 10h, c'est tôt quand même, hein, c'est imaginal. On va parler, la table ronde s'intitule « Nord-américain et francophone, voix de l'imaginaire québécois ». Donc l'idée, c'est d'aller voir un petit peu au Québec comment ça se passe pour tout ce qui est science-fiction, fantasy et fantastique. Et on a un joli plateau avec nous. On a Philippe Aubert-Côté, le premier des joyeux druides de cette table, qui vient de sortir son premier roman, Le jeu du démiurge. Donc on va peut-être en discuter un petit peu avec lui, savoir ce qu'il a mis dedans et comment. Juste à côté de lui, Jonathan Reynolds, qui a une double casquette, et auteur et éditeur.
Je peux te rajouter une troisième casquette?
Hein? Troisième.
Excusez, je suis impoli, mais. Et je suis coordonnateur aussi de la revue Solaris.
Exactement. Voilà. Cet homme ne dort pas. Donc.
Ça paraît.
Et puis, à ses côtés, Jean-Louis Trudel. Jean-Louis Trudel, novelliste, romancier, jeunesse, deux romans de science-fiction à son actif et plein de
sous
casquettes.
Son nom.
Sous son nom. Il a osé. Et puis à mes côtés, Jean Petitgrou, les éditions à lire, mais aussi novelliste.
Aussi novelliste et aussi éditeur de Solaris.
Et aussi éditeur de Solaris.
Beaucoup de casquettes, peu de cheveux.
Donc vous avez compris que ce matin, on va parler surtout de casquettes. Hein, finalement, c'est plus un problème de mode que de littérature. On va peut-être commencer avec vous, Philippe Aubert-Côté, avec ce premier roman. Racontez-nous un petit peu comment vous en êtes venu à la science-fiction, comment est-ce qu'au Québec on en vient à lire de l'imaginaire?
Eh bien, dans mon cas, c'est à cause d'un film de science-fiction que j'ai vu quand j'étais enfant qui s'appelle « C'était demain » en français, ou « Time after time » dans le titre original, où c'était le film proposait une intrigue folle où on imaginait que Herbert George Wells, l'auteur de « La machine à explorer le temps », s'il avait écrit ce roman, c'est qu'il avait vraiment inventé une machine à explorer le temps. Et dans le film, Jack l'Éventreur, qui est magistralement interprété par David Warner, emprunte la machine d'H.G. Wells pour échapper à la police et s'échapper dans le futur. Donc c'est un film qui m'avait complètement fou, qui m'avait marqué enfant et qui m'a fait découvrir H.G. Wells. Donc je me suis mis à lire ses romans et je me suis passionné pour la science-fiction. Cette idée de prendre soit des idées scientifiques et de jouer avec pour créer une histoire ou de prendre une idée folle et d'essayer de la rationaliser par après. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à la science-fiction.
Et en termes d'auteurs et de littérature, quels sont un petit peu les auteurs que vous avez lus et qui vous ont marqué?
C'est une question auxquelles j'ai toujours de la difficulté à répondre parce que en dehors de quelques auteurs de jeunesse comme H.G. Wells ou Robert Louis Stevenson avec Dr. Jekyll et Mr. Hyde, j'ai beaucoup de difficultés à identifier des auteurs contemporains. J'ai tendance à beaucoup magasiner par sujet quand je vais en librairie à prendre les livres qui m'intéressent. Il y a quelques auteurs récurrents que je remarque qui reviennent de temps en temps, comme Robert Charles Wilson, qui propose des intrigues avec des personnages très humains. Mais à part de ça, c'est plus les sujets qui m'attirent. Je m'intéresse beaucoup aux romans qui parlent de post-humanité, qui se passe dans des futurs proches, ou les romans qui proposent des univers délirants, un peu à la Monty Python. Je ne sais pas si l'adjectif est adéquat, mais personnellement, si j'avais à essayer de définir ma science-fiction, je ne me considère pas comme quelqu'un qui est proche de Jules Verne, par exemple, quelqu'un qui cherche de faire de l'anticipation à partir d'une information scientifique rigoureuse. Je me considère comme plus proche de Terry Gilliam, ou j'imagine un univers délirant que j'essaie de rationaliser par après. Un peu. Donc, c'est le genre de science-fiction qui va me brancher personnellement.
Un petit mot peut-être sur le jeu du démiurge?
Oui. Aux lecteurs qui me demandent en une phrase de résumer le livre, je leur dis toujours que c'est un peu un Game of Thrones sans être humain. Un peu. Et, beaucoup, en salon du livre, beaucoup de gens trouvaient ça drôle que j'emploie cette accroche-là, mais elle fonctionne, ça intrigue les gens. Pourquoi la comparaison avec Game of Thrones, qui est une série télévisée que je n'écoute pas? J'ai lu le premier livre de la série et j'avais trouvé ça très intéressant parce que dans Game of Thrones, oui, il y a de la magie, mais c'est mineur. La magie est passée, mais elle est en train de revenir cependant. Et on mettait beaucoup l'accent sur les conflits, la politique, la guerre. Donc, c'était plus un ouvrage, c'était presque quasi historique. Dans le jeu du démiurge, Oui, il y a de la science-fiction, il y a des gadgets, il y a du sense of wonder, mais l'intrigue porte beaucoup sur les conflits qui opposent plusieurs factions de post-humains qui se partagent le pouvoir d'une planète. Et comme l'histoire se passe très loin dans le futur sur une autre planète, l'humanité qui habite cette planète n'a plus rien à voir avec nous, c'est vraiment une post-humanité. Donc, d'où le fait que c'est un Game of Thrones sans être humain. Mais ouais, les personnages ont quand même de l'humanité, il faut qu'ils puissent rejoindre le lecteur.
Un petit mot, peut-être, Jean, sur le roman « Le jeu du démiurge ». Qu'est-ce que tu as trouvé, toi, pour avoir envie de l'éditer?
Ben, d'une part, Philippe Aubert a commencé comme plusieurs auteurs en écrivant des nouvelles. Alors moi, je l'ai connu par les nouvelles via Solaris, entre autres. Et tout de suite, on s'aperçoit que, comme on dit, que quelqu'un a le talent et en plus, ce que j'appelle, moi, le sens de la science-fiction. C'est très important, c'est qu'il y a des gens qui peuvent essayer de faire de la science-fiction et qui peuvent avoir beaucoup d'attributs au niveau comme écrivain ou quoi que ce soit. Mais il y a une sensibilité, il y a surtout une approche qui est excessivement importante et on remarque ça chez ce que j'appelle moi les grands de la science-fiction. Et ben, Philippe Aubert fait pas par esprit, mais il l'a. Mais alors, à partir de là, donc, on voyait ses nouvelles et puis on a travaillé en direction littéraire avec lui à Solaris. Et évidemment, le projet de roman est apparu, je dirais, non pas très tôt, mais assez tôt. Et on a travaillé beaucoup, on l'a fait suer beaucoup, le pauvre Philippe Aubert. On a travaillé quoi, 6 ans peut-être, 5-6 ans sur ce...
Il avait été soumis en 2010, puis voilà,
ouais, ouais, ben c'est ça, c'est un travail à long terme. Dans le fond, c'est un diptyque, c'est 2 tomes que finalement on a mis en grand format ensemble pour faire l'intégrale tout de suite. Et ce qui est remarquable avec Philippe Aubert, c'est sa capacité justement à créer de la vraisemblance dans ce que lui-même dit des univers plutôt délirants. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. L'autre chose absolument importante, c'est que on a travaillé par strat aussi, c'est-à-dire que il y a eu ce qu'on appelle la fixation de l'histoire comme telle, ce qui s'est fait relativement bien parce que la hauteur de la pile de notes de Philippe Aubert n'a d'égal que sa grandeur personnelle. Et à partir de là, à un moment donné, on s'est dit, OK, voilà, on a telle chose, maintenant on rajoute. Et la dernière étape, et c'est Philippe Aubert qui voulait lui-même le travailler de cette façon-là, et je trouve ça admirable, c'est de dire, maintenant qu'on a l'histoire, maintenant qu'on a un bon roman, maintenant, on s'occupe des 5 sens. C'est bien beau de faire une histoire de science-fiction, et surtout quand on est on est au 30e, 31e siècle. Oui. Comme il disait, ce sont des post-humains. Il y a presque plus de notre humanité, mais il faut rendre des personnages humains. Mais il faut aussi sentir cette planète. Il faut aussi sentir les choses. Donc, on a 5 sens, nous, comme humains. Les post-humains en ont plus. Donc, non seulement il faut... Il faut sentir la planète, il faut voir la planète, il faut la goûter, il faut puis les post-humains ont d'autres sensibilités, donc, et ça a été rajouté à la toute fin. Et paradoxalement, on se dit, bon, ben si on rajoute ça, ça devient pesant, et ça n'a pas allongé le livre, ça a simplement synthétisé certaines choses, et moi, comme éditeur, surtout comme directeur littéraire, quand vous arrivez à ce qu'on appelle la lecture finale, où on se dit, bon, ben ça y est, ça peut aller à la révision linguistique et tout ça, j'avoue que c'était absolument là, gratifiant de voir qu'on avait passé beaucoup de temps, enfin, surtout l'auteur, bien sûr, mais qu'on était arrivé à un résultat que moi, je considère comme remarquable. Pour un premier roman, c'est, je vous dirais, il n'y a aucun auteur états-unien dans les grands noms qui ont eu un premier roman aussi solide.
C'est un bel hommage, en tout cas.
Ben, c'est vrai.
Merci.
Solide. Oui, exactement. Alors, étant éditeur moi-même, publié un jeune auteur, c'est un premier roman, c'est de la science-fiction. Autant te dire que
tout pour le salaire.
Ouais, chez nous, on commence à courir à 100 mètres avec des boulets aux pieds quand même. C'est compliqué, en tout cas économiquement parlant. Mais, et du coup, je voudrais en profiter pour avoir un petit peu une espèce d'ambiance. Est-ce que au Québec, c'est facile? Est-ce que c'est monnaie courante? Là, je parle aux deux éditeurs qui sont autour de cette table. Est-ce que, comme nous, vous avez cette barrière un petit peu qui fait que publier de la science-fiction, c'est un petit peu compliqué aujourd'hui pour nous, en plus pour un jeune auteur, ou est-ce que c'est plus simple, ou peut-être que c'est une exception?
Bon. Et, écoute, la science-fiction, c'est le genre le plus difficile à publier parce que c'est une littérature d'idées. On a beau faire un best-seller, on a beau avoir d'excellents auteurs, ça sert à rien comme éditeur d'essayer de penser qu'on va vendre de la science-fiction à 80% de la population. Ce n'est pas du Musso, ce n'est pas... On ne s'adresse pas à ces gens-là. Non, mais c'est... Et j'ai rien contre Musso, là, soyons clairs, là. C'est autre chose. La littérature de science-fiction est une littérature d'idées. Les gens qui s'intéressent aux idées plutôt qu'aux personnages ou aux émotions sont ce qu'on appelle la portion congrue, mais peut-être la plus intéressante, je ne le sais pas, là, mais la portion congrue de la population, des gens qui lisent. Difficulté supplémentaire au Québec, c'est que vous êtes dans le pays de la littérature en France. Bon, en France, on déplore qu'il y a de moins en moins de gens qui lisent, donc il y a une courbe un peu descendante. Nous, on dit, c'est quand même encourageant, on a une pente ascendante, mais notre pente ascendance, elle est extrêmement plus basse que la vôtre, même si elle descend la vôtre. Ce qui fait que, puis en plus, on est 8 millions, alors que vous autres, vous êtes 70, quelques millions. Alors, évidemment, quand on arrive avec un livre de science-fiction, pour nous, c'est si on pensait comme un éditeur normal, à savoir argent, rentabilité et tout ça, ben mon Dieu, on ferait autre chose. Mais en même temps, ce qui est important, c'est de dire, il faut que la littérature québécoise soit représentative de l'ensemble des littératures, et donc ça prend de la science-fiction. Et pour faire de la science-fiction, ben, ça prend des éditeurs qui sont capables d'en éditer et non pas juste d'en publier, parce que chez nous, on fait la distinction entre publieur et éditeur. Comme on a en anglais, on a l'éditeur qui est le directeur littéraire et le publisher. Bon. Alors, on a des publières au Québec, comme en France, il y a des publières, c'est-à-dire on prend quelque chose, on met ça là, une petite révision linguistique et hop, on y va. Des fois, c'est très bien, des fois, c'est de la merde, mais bon, en fait, c'est la vie. Et c'est pas parce que c'est de la merde que ça se vend pas, et c'est pas parce que c'est bon que ça se vend. Alors, je reviens avec la science-fiction. Pour nous, c'est extrêmement difficile. Les cas exceptionnels, ben, Elisabeth von Arbour, chez nous, avec la série Tyrannaël, a dépassé avec les 5 tomes. En tout cas, le premier est devenu un vrai best-seller au Québec. Chez nous, c'est 5000 exemplaires. On a dépassé allègrement le 5000 avec le premier tome. À l'ensemble, je pense, c'est peut-être 20 000 copies, grosso modo. C'est extraordinaire. Multiplié par 10 pour la France, tout le temps, quand je donne des chiffres. Alors, des livres de science-fiction français, à part notre ami Verber, il y en a peu, là. Oui. Bon. Alors, ça, c'est pour la science-fiction. Pour les autres genres, ben, c'est la même déclinaison que vous. La fantasy est à la mode, donc on va en vendre un peu plus. Nous, on fait les autres genres aussi, c'est-à-dire qu'on fait le polar. Bien, évidemment, le polar vend plus. Et on a une exception chez nous qui s'appelle Patrick Sénécal, qui est le troisième meilleur vendeur, tout genre confondu, au niveau roman au Québec, qui fait à la fois du fantastique, qui fait du polar. Et contre toute attente, et puis on en est bien fiers, mais c'est vraiment une vedette au Québec. Et ça, ben, ça permet de soutenir. Toute maison d'édition a besoin d'un ce qu'on appelle d'une locomotive. Et avec Patrick, ben, ça devient la locomotive. Et on accroche les wagons, puis il va de la galère.
Ça donne une liberté éditoriale derrière.
Exactement, exactement.
J'ajouterais à ce que Jean... dans le fond, j'approuve tout ça. C'est vrai que... Mais j'ajouterais aussi que c'est pour ça qu'au Québec, on se tient tissé serré.
Ouais.
Tu sais, je connais Jean depuis des années. Lorsqu'on avait commencé notre toute petite maison d'édition là, en 2001, les 6 brumes, ben, ils nous aidaient et tout. Tu sais, une bonne petite tape dans le dos. Allez-y les gars, continuez. Pourquoi vous imprimez pas à telle place, ça serait moins cher. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si c'était des maisons d'édition qui publient tous des gros best-sellers puis ils s'entremangent tout. Pis... Non, on s'entraide. Il y a le Congrès Boréal au Québec, un événement où est-ce qu'on se croise tous. Et on est des amis, dans le fond, là. Ouais. Lorsque Jean est venu me chercher, il y a, en tout cas, je travaille depuis un an comme coordonnateur pour la revue Solaris. Et dans d'autres milieux, ça se verrait pas, je pense. Mais c'est au niveau de, on se tient, on sait qu'est-ce que chacun fait, on sait, tu sais, puis on s'entraide. Et ça, je trouve ça remarquable. En tout cas, il y a sûrement d'autres milieux qui font ça aussi. Mais
c'est l'obligation de la survie. Au Québec, jusqu'aux années 60, c'était la survie même de la race, si je peux m'exprimer ainsi. Puis il fallait garder notre langue et tout ce qu'on veut. Dans les années 60, ce qui caractérisait les Canadiens français à l'époque, c'était la langue française et la religion catholique. Bon, on en a échappé une en 60. On a échappé la bonne tant qu'à moi. Et donc, maintenant, ben, le combat, c'est vraiment... Écoutez, on est entouré par 300 millions d'anglophones. C'est pour ça que, on n'a pas le choix, il faut rester tissé serré. Mais en même temps, le Québec est extrêmement ouvert sur le monde. Évidemment, au Québec, on est assez souvent bilingue. Évidemment, quand je vois Mike Resnick ici ou James Morrow, on a plutôt tendance, nous, à les lire en version originale pour la grande majorité des gens. Nous, on trouve toujours ça assez rigolo ici en France de voir que eux, ce sont des Américains et nous, on est des Québécois. Je revendique mon américanité. Je suis Américain depuis plus longtemps que certains. Pour nous, ce sont des États-Unis. Comme les Anglais sont des Anglais. Bon, alors, et je vous ferai remarquer que les États-Unis, c'est le seul pays au monde qui n'a pas encore de nom. Hein? Les États-Unis, on ne le sait pas. C'est quel est le nom de ce pays? Peut-être qu'un jour, ils feront un vote, là, mais actuellement, ils n'ont pas de nom. Kurt Vonnegut a aussi remarqué ça et trouvait ça absolument incroyable de vivre dans un pays sans nom. mais je reviens à nos choses, c'est que, étant donné que le pays est très, très vaste chez nous, c'est quand même 5 fois grand comme la France, étant donné qu'on est 10 fois moins de personnes, on n'a pas le choix de s'entraider. Donc, ce sont des collègues, tous les gens au Québec et même dans les autres maisons d'édition en général, à quelques exceptions près, ce sont des collègues et non pas des compétiteurs.
Faites-nous un petit panorama, mais peut-être en trois mots. Il y a beaucoup de maisons d'édition d'imaginaire. Chez nous, on connaît évidemment à lire, mais est-ce qu'il y en a d'autres? Comment se compose rapidement le marché, si on veut en donner une petite idée aux gens qui sont ici?
Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, puis tu me diras, Jean, si je me trompe, il y a des maisons qui étaient, disons, comment on appelle ça, généralistes. Si je pense à De Mortagne, par exemple, qui à la base faisait de la littérature, pas de la littérature, mais excusez, de l'ésotérique, cheminement personnel et tout. Et ils se sont mis avec les Chevaliers d'Émeraude, là, je me souviens plus de la date, c'est début 2000. Ouais, c'est ça. Sur le succès du Seigneur des Anneaux, au cinéma, bien entendu, Harry Potter et tout. Ah bon, mais go, on va ouvrir une collection. Fantastique, fantasy.
C'est qu'ils ont reçu les Chevaliers d'Émeraude, le premier tome, mais ils ne sont pas perçus que c'est de la fantasy, ils ne connaissaient pas ça. Alors, ils ont dit, nous, on fait de l'ésotérisme, ça a l'air bien, alors il y a un paquet de choses, et puis hop, ils sont allés, et puis au départ, ça ne marchait pas très, très fort, mais Mme Rémillard étant Mme Rémillard, Anne a un sens absolument remarquable de certaines choses, et entre autres de la mise en scène, ce qui fait qu'à partir du quatrième tome, là, ça a décollé et ça est devenu le succès absolument astronomique, populaire, incroyable, et qui a continué en France, à vrai dire, dans toute la francophonie, c'est absolument remarquable. Et donc, ce sont, comme dit Jonathan, ce sont des éditeurs généralistes qui, à un moment donné, pour des raisons X, vont prendre, la fantasy est à la mode, donc on fait... le polar actuellement est très à la mode au Québec. On a, je dois l'avouer, nous, participé beaucoup avec Alire et avec la revue Alibi qui se consacre au polar, qui est le pendant polar de Solaris, à monter notre polar au Québec. Et maintenant, les gens au Québec disent pas « Ah, c'est du polar québécois, c'est pas bon. » Non, au contraire, « Ah, c'est du polar québécois, je vais essayer. » Alors ça, c'est vraiment quelque chose de gagnant. Alors c'est devenu... maintenant, on a un paquet d'éditeurs qui font maintenant du polar. Certains avec bonheur, certains avec moins de bonheur, mais au moins, ça crée ce que j'appelle l'écologie. Si vous avez juste un champ de blé, ça va pas bien pour la planète. Si vous avez une multitude de choses et en plus de petites orchidées à gauche, à droite, ça veut dire que vous avez une belle écologie et vous avez ce que j'appelle une littérature vivante. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on a actuellement, là.
Un petit mot peut-être sur la littérature jeunesse, pour le coup, puisqu'on a Jean-Louis Trudel avec nous. Comment ça se passe sur la littérature jeunesse au Québec? Parle-nous un peu de ton expérience.
Mon expérience remonte déjà à quelques années. Je n'en publie plus, mais j'en publierai peut-être de nouveau. Je peux enchaîner, en fait, dans une certaine mesure avec ta question précédente, parce que... il y a un tout petit nombre d'éditeurs qui publient, disons, des ouvrages de science-fiction et fantasy qui sont au moins officiellement pour adultes, comme à lire Les Six Brumes de Mortagne. Et puis ensuite, il y a une constellation depuis 5-10 ans, peut-être un tout petit peu plus. On peut, les Intouchables, ça remonte un peu plus longtemps. D'éditeurs qui se sont lancés dans les genres pour la jeunesse. Moi, j'ai commencé à publier dans les genres pour la jeunesse en 1994. C'était une collection qui existait depuis les années 70. C'était la plus ancienne et elle a jusque dans les années 80, elle avait essentiellement le monopole des genres, puis il y a eu la courte échelle. Mais à partir du succès, effectivement, de Tolkien, et aussi, de Tolkien et bon, surtout au cinéma, justement, et de Harry Potter, il y a eu, aussi, comme en France un peu aussi, une floraison de nouveaux éditeurs, parfois gros, parfois petits, pour la jeunesse. Je me souviens avoir eu un repas avec mon éditeur chez Mediapol il y a des années de ça. Je pense que c'était effectivement aux alentours de l'an 2000, parce que j'étais en train de signer pour mes nouvelles chez Au Fleuve Noir dans les escales, et je remarquais comment les Donjons et Dragons vendaient très bien à côté de moi. Et j'avais proposé à mon éditeur que, bon, ce serait peut-être temps de lancer une collection qui revamperait un peu son look et peut-être irait chercher un peu plus du côté de ce que faisait Donjons et Dragons du point de vue... Dragonlance. Ce que faisait donc cet éditeur-là, j'ai pas été écouté, mais quelques années suivantes ou après, j'ai noté qu'une petite maison d'édition appelée Les Intouchables lançait un auteur appelé Brian Perrault en copiant un peu le look des couvertures des Lance-Dragons, et ça a très bien marché. Et depuis, avec le succès des films de Tolkien, de la fantasy pour adultes, et il y a une floraison de maisons d'édition pour jeunes qui font du jeunesse. Ça, il y en a, c'est quand même beaucoup de la fantasy, mais il y en a aussi quelques-uns qui font écho, on pourrait dire, au succès des Hunger Games, de la série Divergent. Donc, on a des auteurs comme Patrice Cazot, et qui sont à la limite du jeune adulte et du jeune adulte. On pourrait dire que le cœur de cible de leur publication, c'est peut-être entre les 15-25 ans, un peu, pas tout à fait ce que faisait l'ancien Fleuve Noir Anticipation, mais pas loin non plus. Et donc, on a des auteurs comme Véronique Drouin qui vient de compléter sa série Amblystone, qui, on ne peut pas dire que c'est du jeunesse classique, c'est un peu trop violent et cru, mais il y a quelque chose aussi dans l'écriture qui reste très axé sur la narration, sur les rebondissements, peut-être un peu faciles, et dans une certaine mesure, c'est le public que ça va rejoindre. Donc, il y a cette floraison qui complète un peu le portrait, mais ce sont souvent des éditeurs. Bon, on se pose des questions exactement sur leur connaissance du genre, qui leur vient peut-être, on se demande, peut-être plus justement des lectures de romans jeunesse américains traduits en français en France et puis qui arrivent au Québec, ou parfois des produits dérivés, c'est-à-dire des films ou jeux vidéo. C'est à peu près la situation en ce moment. Une des choses que ça a permis, entre autres, que j'ai envie de mentionner, c'est que ça a permis de publier des livres plus gros. Parfois, la police est plus grosse aussi, mais ça, quelque part, ça convainc les jeunes quand ils achètent un gros tome avec plein de mots, et en tout cas que ça va les tenir pour longtemps, et que ça, comme un Harry Potter, et que ça, ils en auront pour leur argent. Ou sinon, ce sont leurs parents qui sont convaincus qu'ils en ont pour leur argent, selon les cas.
Mais là-dessus, c'est intéressant ce que tu... c'est intéressant parce qu'il y a des mythes hein, dans le monde de la littérature, et souvent, ceux qui accrochent le plus aux mythes et à ce que j'appelle les pensées magiques, ce sont les éditeurs. Au début des années 80, au Québec, c'était impensable de sortir un livre de plus que 500 pages. C'était, bon, tu dépassais 300, et je parle en adulte, là. Du côté littérature adulte, c'était impensable. Jacques Fortin, qui était le directeur, le fondateur et président de Québec-Amérique, a fait un livre qui s'appelle Le Matou, que vous avez connu en France, qui s'est vendu partout, de Yves Beauchemin, qui faisait 575 pages. Évidemment, ça a été comme une espèce de révolution, et même l'éditeur à l'époque se disait, bon, on n'en vendra pas beaucoup, mais c'était quand même un bon roman. Bon. Par un concours de circonstances, il a été choisi dans ce qu'on appelle en France la main de sélection à l'époque de France Loisirs. À l'époque, c'était pour l'ensemble de la France. Il s'en est vendu par France Loisirs quelque chose comme 750 000. Et déjà au Québec, ça allait très, très bien. Et puis, il a été traduit en plusieurs langues. Et tout à coup, là, si tu n'avais pas 500 pages, là, c'était moins intéressant. Et le phénomène, c'est, je rebondis là-dessus, parce que Harry Potter a changé complètement la donne pour la littérature jeunesse, pas juste en francophonie, en anglophonie, dans toutes les langues. C'est qu'on dit, ah, les jeunes, c'est toujours pareil, les vieux se disent toujours, les jeunes, ils lisent pas, puis bon. Ben, c'est pas vrai du tout, les jeunes, donnez-leur quelque chose qui les intéresse, puis ils vont lire, hein. Si vous avez un jeu vidéo puis c'est marqué, faites le test. Prenez un jeu vidéo qui peut les intéresser, mais mettez juste les instructions en allemand. Ils vont apprendre l'allemand. C'est aussi simple que ça. Alors, quand ils sont intéressés, ils vont de l'avant. Les Harry Potter, qui sont, ma foi, très bons, sont gros. Les jeunes ont embarqué, les jeunes étaient contents. Et puis, ben, depuis ce temps-là, effectivement, comme dit Jean-Louis, ça a permis de pouvoir faire ce que j'appelle des intrigues pour jeunes plus consistantes. Ça reste de la littérature jeunesse dans le bon sens du terme, parce qu'on se garde certaines petites gênes sur certaines choses. Et ça a influencé aussi la littérature adulte. Et ça, je trouve ça remarquable, parce que pour des raisons totalement, je dirais même idiotes, on se met des barrières. Et par rapport à ça, c'est ce que j'aime de la science-fiction. Nous n'avons pas de barrières en science-fiction. Ça coûte rien de la science-fiction. Les effets spéciaux sont gratos, là. Alors, vous pouvez partir votre histoire en disant, bon, ben, l'univers explosa. Bon, faites ça à Hollywood, là, vous êtes dans la merde. Ça coûte une fortune. Au Québec, on rit beaucoup parce que dans les livres, souvent, ça se passe en hiver et il neige. Quand tu fais un film, tu tournes en hiver, les gens détestent ça. Parce que il fait trop froid, il n'y a pas de neige, il y a ci, il y a ça, c'est compliqué. La littérature, c'est la liberté totale. Et donc, voilà, j'arrête là-dessus.
Un exemple de nouvel éditeur qui vise un peu le jeune adulte, c'est par exemple les éditions Porte-Bonheur, qui a commencé modestement avec des petits livres plus pour jeunes, mais a lancé, par exemple, depuis quelques années, la série Les Clowns Vengeurs, qui est extrêmement glauque, violent, qui est inspirée d'une série de nouvelles publiée par un auteur, Michel J. Lévesque, qui a publié des nouvelles dans Solaris, qui a publié des nouvelles dans la revue Brin d'éternité, et qui, à un moment donné, entre lui et l'éditeur Pierre Lavigne de Porte-Bonheur, ont décidé d'essayer d'en faire une sorte de franchise, une série où différents auteurs s'installent dans cet univers et livrent un volume relativement mince, comme vous pouvez le voir, mais quand même qui a, disons, un compte de mots plus élevé que les romans jeunesse, disons, des années 80, début 90.
Est-ce qu'on peut parler maintenant de la nouvelle et de la place de Solaris dans l'imaginaire au Québec? Est-ce qu'on peut faire des recueils de nouvelles au Québec, ou est-ce que c'est aussi compliqué que chez nous? Est-ce que Solaris est un passage fortement recommandé pour pouvoir passer après au roman? Ça a été souvent le cas chez nous, hein, on disait on commence par des nouvelles et puis après on fait des romans. Ça l'est beaucoup moins, hein, il faut le constater. Est-ce que ça le reste encore chez vous?
Je pense que oui. Tu donnais l'exemple des Clowns Vengeurs. Bon, ben. Michel J. Lévesque, sa première nouvelle apparue dans Solaris. J'ai été directeur littéraire, c'était en 2002. Michel, un auteur bourré de talent, mais parfois, au début, c'est un peu comme quand vous apprenez la bicyclette, à un moment donné, vous avez besoin des petits trous à l'arrière, hein, parce que là, le jeune, il penche, tout ça, il n'a pas le sens de l'équilibre encore. Puis à un moment donné, il y a un déclic qui se fait. C'est qu'à un moment donné, le jeune, vous lui enlevez ses petits trous à l'arrière, ça n'en aperçoit même pas, puis bon, ça y est, c'est parti. Et avec Michel, on a travaillé beaucoup sur sa première nouvelle, mais vraiment beaucoup. Et assez que moi, je me suis un peu découragé. Et mon collègue regretté, Joël Champetier, a pris le relais. Et on est patient à Solaris, parce que, bon, c'est notre mission aussi. Puis à un moment donné, ben justement, il y a eu le déclic. Et puis Michel, dans une xème version, ben voilà, c'est parfait, ça marche. Et puis Michel a toujours eu l'ambition de vivre de sa plume, ce qui n'est pas évident au Québec, c'est même pas évident en France, alors imaginez au Québec. Fort de cette première nouvelle-là, il a écrit une deuxième, une troisième, il a publié dans Galaxy, il a publié, et puis après ça, hop, il est passé au roman. Et c'est là le but de Solaris. Solaris existe depuis 1974. Je dirais que 80% des auteurs de l'imaginaire québécois ont passé par Solaris. On peut publier une nouvelle, deux nouvelles, tout ça.
Comme fiction en France.
Oui, exactement, exactement. Le fiction d'octobre 1953 jusqu'à 1990, où à un moment donné, on avait des nouveaux noms. Là, on voyait apparaître des gens qui disaient... Ah, ben voilà un jeune qui est assez intéressant, le genre Dorémieux, mettons. Le jeune Dorémieux. Alors, j'aime ça lire dans les vieux fictions. Ah, le jeune Dorémieux a fait telle chose. Bon, et ça, c'est intéressant. C'est une école. Vous apprenez pas ça à l'université, en tout cas pas au Québec. On a des cours de création littéraire qui sont très bien, mais pour apprendre à écrire, il faut surtout dans les genres littéraires avoir quelqu'un qui vous guide en fonction des genres littéraires. Solaris, c'est notre mission et je pense que c'est encore tout à fait vrai. Nous, on peut faire la différence du côté polar. Du côté polar, c'est pas la même chose. Les gens ont tendance à aller, mais vraiment beaucoup plus directement au roman, en bien ou en mal. Retravailler un roman de 300 pages, c'est beaucoup plus long que retravailler une nouvelle de 15 pages. Une nouvelle de 15 pages, moi, ça ne me dérange pas de faire reprendre un auteur 7, 8 fois et on arrive à un résultat. Au bout de 3 fois avec un roman, sauf quand c'est Philippe Aubert, bien sûr, mais quand on arrive à trois reprises, à un moment donné, on se dit, d'une part, l'auteur est crevé, et nous aussi. Alors, mais c'est ça. Donc, Solaris, la mission est toujours là. Je pense que nous, au Québec, ça fonctionne encore. Mais ce que je remarque, c'est que quand Jean-Louis parle de la nouvelle génération, mais enfin, tous les gens qui écrivent pour la jeunesse, mais aussi pour adultes au niveau de la fantasy, ce que j'appelle, moi, la fantasy, je vais dire commercial, mais c'est pas péjoratif, là, mais la fantasy telle qu'on la pratique et on la connaît de plus en plus, eux ont tendance à travailler aussi de la façon du polar, c'est-à-dire qu'on passe directement au roman, et avec le bien et le mal que ça peut apporter. C'est-à-dire que c'est un peu comme un pianiste qui voudrait commencer avec des concertos. Une petite gamme de temps à autre, ça fait pas de mal. Là. Alors, voilà.
Un petit mot, Jonathan, et puis on va demander aussi à Philippe Aubert.
Oui, juste un mini mot, juste pour dire que, ben, pour ajouter sur ce que Jean vient de dire sur Solaris, c'est que Solaris aussi a vraiment, je dirais, alors, ben, moi je suis né en 1980, OK? Solaris, comme Jean dit, c'est 1974, et ça l'a rassemblé des gens, des auteurs, des passionnés, pour créer un milieu. Donc Solaris est au centre, est au cœur même du milieu, ce qu'on appelle SSFQ, là, science-fiction et fantastique québécois. C'est ce qui est intéressant. Fait que, au-delà même du tremplin que ça offre aux auteurs, au-delà de tout ça, c'est que c'est vraiment nécessaire, les gens, pour l'identité, de dire, OK, oui, au Québec, on a Solaris, on a le cœur même, puis qui bat depuis 74, depuis 42 ans. Oui, mon calcul est bon en matin. Mais c'est juste un petit truc que je voulais rajouter.
Je vais aussi ajouter un petit quelque chose pour compléter le portrait, parce qu'il n'y a pas seulement Solaris. Je suis l'auteur qui a pu publier dans Solaris, mais moi j'ai commencé dans la revue Imagine, qui est morte, disparue dans les années 90. Et essentiellement, depuis 79, il y a toujours eu à peu près au Québec des solutions de rechange, qui étaient parfois des fanzines, mais qui avaient une mission quand même de publier pas juste des conneries, mais aussi des nouvelles et de s'ouvrir aux expériences littéraires de jeunes auteurs. Et d'ailleurs, les statistiques démontrent, au moins jusqu'à la fin du siècle dernier, que Solaris a quand même publié relativement peu de jeunes auteurs comparé à Imagine. Et plus récemment, une revue comme Brin d'éternité, qui a commencé comme fanzine et maintenant paye un peu ses auteurs, et a une qualité d'édition relativement professionnelle. Le nombre de pages n'est pas encore à la hauteur de Solaris, mais c'est très respectable, et qui accueille aussi de nouvelles voix. Une différence par rapport à fiction, et même peut-être à Galaxy qu'on peut mentionner, c'est que fiction et Galaxy publient quand même un pourcentage relativement élevé, enfin, fiction assez élevé dans son temps. Galaxy... moins élevé, mais quand même conséquent, de traduction de l'américain ou, dans le cas de Galaxy, de plus en plus d'autres langues. Mais les fanzines et revues québécoises ou canadiennes-françaises publient surtout du francophone canadien, et selon les époques, selon les directeurs littéraires, selon les circonstances, de la francophonie européenne.
Oui. Philippe Aubert.
Oui. Pourriez-vous juste me rappeler la question?
C'était sur le passage obligé de la nouvelle ou pas?
De la nouvelle. Oui, moi, je seconde beaucoup ce que Jean disait, la comparaison à propos des gammes. Mes parents sont musiciens, donc c'est le genre de métaphore qui me parle. Un pianiste ne va pas jouer le concerto numéro 3 de Rachmaninoff du jour au lendemain. Il va falloir qu'il apprenne à y aller étape par étape. Le passage de la nouvelle... Je sais qu'il y a certaines exceptions d'auteurs qui vont passer directement au roman, que ça va marcher, mais je crois qu'en règle générale, c'est plus profitable de commencer par des nouvelles. C'est plus court, c'est plus rapide, ça permet aussi de vivre un peu tous les problèmes qu'on va rencontrer plus tard dans la rédaction de romans, même si les deux sortes de textes ont des différences. Ça permet aussi des fois de peaufiner ses méthodes de préparation d'univers, de préparation de personnages. Jean faisait allusion tantôt à la pile de notes que j'ai fait pour le Démiurge. J'ai mis pour chacune des nouvelles que j'ai faites, j'avais des dossiers assez exhaustifs, assez épais, où je regarde l'arrière-monde, les personnages, leurs valeurs, les sociétés, tous les aspects scientifiques, tout est bien planifié. Donc, moi, la préparation que j'ai faite pour mon roman est semblable à celle que j'ai faite pour mes nouvelles. C'était juste au niveau quantitatif qu'il y avait une différence. Aussi, la nouvelle permet de vivre la direction littéraire, qui, je crois, est une étape très importante. Je sais que ce n'est pas toutes les revues ou les fanzines qui en font, mais quand on a l'occasion de vivre une direction littéraire, c'est extrêmement formateur. Dans le cas de Solaris, j'ai jamais publié dans Empreinte d'éternité, mais je sais qu'ils font un travail très sérieux, très rigoureux aussi. Dans le cas de Solaris, et j'ai publié une nouvelle dans Alibi aussi, qui était plus donc policière. Moi, j'ai tellement appris au niveau de la direction littéraire, je trouve que j'ai été choyé d'avoir des gens qui, OK, acceptaient mon texte, ou bien me disaient, ça m'intéresse, mais il faut leur travailler un peu avant qu'on dise oui, et me faisaient des commentaires constructifs, me disaient, telle chose ne marche pas, il faut changer ça. Donc, juste de me pointer les défauts, puis moi, de me forcer à envisager une solution, à la mettre en pratique, la tester, voir si ça marche, c'est extrêmement formateur, parce qu'ensuite, je suis capable de le faire tout seul. Un peu... est-ce qu'il y a autre chose que je peux dire? Non, je crois que ça fait pas mal le tour. La métaphore des gammes est très importante.
On a fait un petit détail des lieux. Je voudrais poser un peu la question de nos relations, entre nous, vos relations en fait avec la France, le marché français, les auteurs français. Comment ça se passe, tout ça?
Bon, d'un point de vue, je mets mon chapeau d'éditeur. C'est extrêmement difficile de percer en France... Non pas parce que les gens ne sont pas intéressés à ce qu'on fait, c'est ce que j'appelle l'institution. Alors, on est quand même chez Alire, on est distribué par un des plus gros distributeurs français. Le problème, c'est qu'évidemment, quand tu arrives en librairie, bon, on n'est pas nécessairement représenté par le représentant, pardonnez la répétition. Et évidemment, si en France, on a un côté, encore là, je le dis pas mal, mais... On est habitué à faire beaucoup de traductions, on est habitué à faire beaucoup de choses en France. Vous êtes le pays de la littérature, alors, et vous l'êtes encore, là, contrairement à ce que certains disent. Ce qui fait que dès que ça sort, ça arrive en dehors de l'Hexagone, alors qu'il y a tellement de livres, évidemment, on arrive un peu en surnombre. Bon. Par rapport à ça, on a un avantage, c'est-à-dire qu'on fait des genres littéraires. Donc, quand on fait des genres littéraires, il y a une classe de personnes, de lecteurs, lectrices qui sont intéressés à ça et qui, envers et contre tous, veulent essayer de les trouver. Alors, donc, on a ce que j'appelle de certaines ventes qui peuvent être intéressantes parfois en France, mais le papier est difficile à se rendre jusqu'au lecteur. C'est pour ça que quand on vient aux Utopiales, quand on vient aux Imaginales, quand on fait les quais du Polar à Lyon, souvent, entre autres, à Lyon, avec trois auteurs, on a été littéralement dévalisés. C'est remarquable. On arrive avec 200-300 livres, avec trois auteurs, et à la fin des trois jours, il n'y en a plus, là. Parce que les gens nous trouvent enfin, les gens sont intéressés et tout ça. Bon, alors on se dit toujours, si on était plus présent, on en vendrait plus. Vous savez, c'est l'œuf, la poule et tout ça. Mais je comprends la situation. Là où c'est intéressant maintenant depuis quelques années, c'est qu'il y a le numérique. Alors le numérique vous permet de valider vos théories. C'est comme en science-fiction, hein? On fait une théorie, on écrit une nouvelle. En édition, on fait un peu la même chose. C'est-à-dire que nous, au Québec, on est chez Alire, un des premiers à avoir pris le virage numérique. Et écoutez, on vend très, très bien en France, en Belgique, en Suisse romande et tout ça. On vend très, très bien. 80% de nos ventes en France actuellement, ça passe par le numérique. Et moi, ça valide ma position d'éditeur, à savoir que si on pouvait se rendre plus facilement dans une majorité de librairies, ça vendrait bien. Quelqu'un me disait hier, je vous trouve facilement parce que vous êtes chez Gibert. Oui, mais Gibert n'est pas partout. Alors, si vous habitez à côté de chez Gibert, ce qui est le cas de cette personne que je nommerai pas, alors oui, effectivement, on est totalement disponible. Mais, pardon?
C'est à Paris.
Oui, oui, c'est ça. Alors, mais puis Paris, comme on dit, Paris, c'est pas petit. Ce qui fait que, bon, c'est pas tout le monde qui va chez Gilbert Jeune, etc., etc. Si on est ici pour trouver un livre à lire à Épinal, on a des bons libraires ici, mais ils n'ont pas nécessairement tous les livres à lire, c'est normal. Tous les livres sont commandables, tous les livres sont disponibles, mais bon. Alors, ça, c'est la partie, je dirais, éditeur. La partie... Là, je mets l'autre chapeau par rapport aux revues. On a une très belle clientèle en France. Par rapport à une revue qui vient de l'extérieur et tout ça, on a beaucoup d'abonnés français. Et encore là, c'est très intéressant. Les postes sont excessivement chers d'un côté comme de l'autre, mais surtout d'une autre, ce qui fait que, encore là, avec le numérique, ça nous permet pour certains de pouvoir continuer leur abonnement à des prix plus corrects, si je peux m'exprimer ainsi. Mais je ne peux pas distribuer Solaris en France actuellement. Ça, c'est impensable. Pas parce que les gens ne veulent pas l'avoir. C'est même difficile quand on pense à Galaxy, au Belial, avec Bifrost et tout ça. C'est pas évident de faire une revue de genre en France là, parce que la distribution est compliquée, les coûts sont astronomiques, etc., etc. Et troisième chose, c'est les relations avec ce que j'appelle le milieu français. Alors là, c'est de tout temps, je pense, il y a eu beaucoup de contacts. Autant les auteurs français viennent au Québec et autant nous, on aime bien venir ici. Et puis les relations ont toujours été cordiales. Et il y a beaucoup d'émulation, je trouve, entre la France et le Québec. Et évidemment, comme... Je vais employer la métaphore de l'Empire. Comme nous, les marches autour de l'Empire, c'est-à-dire ce que j'appelle le Québec, les marches lointaines, la Belgique et la Suisse. Bon, évidemment, on a un petit côté où on a beaucoup de plaisir avec les Suisses et les Belges aussi. Et c'est pas contre la France, comme je dis souvent, c'est pas contre la France, mais à un moment donné, eux ont leurs problèmes vis-à-vis ce qu'on appelle la distribution française. Nous, on a le nôtre, et puis évidemment, ça crée des liens un peu spécifiques. Alors ça, donc, dans l'ensemble, ça va pas mal du tout. Peut faire mieux, peut faire beaucoup mieux au niveau de l'édition, c'est-à-dire de la pénétration du marché, mais on y travaille.
Jean-Louis?
Comme auteur, donc, je peux peut-être dire un mot sur la question qui était celle, de percer en France. Il y a toujours des possibilités. J'ai moi-même donc publié deux romans au Fleuve Noir sous mon nom. Plus récemment, sous le nom de Laurent McAllister, Yves Ménard et moi-même avons signé Suprématie chez Bragelonne, le dernier volume de la collection science-fiction de Bragelonne. Et il y a un certain nombre de nouvelles que j'ai fait paraître dans Galaxy, ainsi que dans des anthologies françaises, belges, pas encore suisses, mais ça viendra peut-être. Derrière moi, sur le tableau, il y a justement la couverture, de temps en temps, je pense qu'il y a une sorte de cycle, d'une anthologie où, française où j'ai une nouvelle. Donc, il y a eu, disons que j'ai maintenant à peu près 20 ans et quelques, 25 ans de perspective. Et bon, il fut un temps où c'était à certains égards plus difficile, ou sinon on peut dire que justement je jouissais de certains avantages parce que je venais régulièrement en France, ma mère étant française. À l'époque où j'ai fait connaissance peu à peu avec le milieu français, j'ai parfois aussi payé d'audace, par exemple, en appelant Philippe Lup au Fleuve Noir et en disant « Je suis un auteur canadien de passage à Paris », et ce qui, bon, a un certain cachet quand on le dit comme ça au téléphone. Et j'étais allé le voir, je ne me souviens plus si c'était avant ou probablement avant l'apparition du premier roman au Fleuve Noir. Depuis, les choses ont un peu changé, mais... Par contre, avec une revue, depuis 1994 à peu près, il y a Bifrost et Galaxy qui publient, bon, surtout Galaxy, des Canadiens. Moi-même, Michel Laframboise, Ariane Gélina, Elisabeth Von Arbour, Michel Gilévesque, effectivement, une fois ou deux, peut-être d'autres auxquels je ne pense pas. Et l'étape suivante, c'est celle, effectivement, de faire paraître un roman. Il suffit de soumettre. Il y a le défi de l'adaptation linguistique. Il faut pouvoir écrire au moins dans un français international. Moi, je ne me risquerai pas à écrire, à employer le registre familier de la langue française, même si je le comprends. dans une certaine mesure, mais pour les Québécois, disons, pure laine, c'est d'autant plus difficile parce que, bon, entre, comment dire, l'imitation a du mal à être authentique si on la tente. C'est ça qui restreint un peu l'expression linguistique. Ou entraîne, justement, comme on en a parlé hier par rapport à des adaptations.
Moi, je ferais juste rajouter que Solaris, cette année, ça tombe bien qu'on ait une délégation, voyons, aux Imaginales, excusez-moi, je t'ai pas dit Utopia, ici à Épinal, parce qu'on veut créer justement un pont avec les auteurs français, ben, excusez, les auteurs francophones européens, donc vous pouvez être suisse, vous pouvez être tout ce qui est francophone hors Canada, avec le prix Joël Champetier, donc pour effectivement rendre hommage en même temps ben, à notre regretté ami et collègue, et donc c'est ça, c'est un je voulais juste ajouter, moi, qu'on veut créer un pont, justement. Là, je pense que ça va dans le sens aussi de la question, là, pour non pas pour percer le marché, c'est pas ça du tout. C'est pour aller chercher puis dire, regardez, on fait un pont vers vous, là, le Québec et la francophonie internationale. Tiens, je vais appeler ça comme ça.
J'ajouterais aussi que le Congrès Boréal, dont je porte le T-shirt, invite quand même depuis des années, ça a été lancé par Elisabeth Vernambo en 1979, des auteurs francophones européens assez régulièrement, tout dépendant des fonds et de l'énergie des organisateurs.
Jean?
Jonathan parlait du prix Joël Champetier. Effectivement, le prix Solaris existe depuis 1980-81, ça s'appelait Dagon anciennement. Ce prix-là, bon, est un prix que je pense qui est assez bien reconnu. À un moment donné, pour un paquet de raisons, là, un peu difficile, trop longue à expliquer, il a fallu restreindre le prix Solaris à essentiellement des auteurs canadiens francophones, point à la ligne. Donc, plus moyen qu'un auteur, Sylvie Lainé a déjà gagné le prix, un autre. Mais là, il n'y avait plus moyen. Alors, évidemment, ça a créé des récriminations tout à fait justifié. Quand, malheureusement, on a perdu Joël Champetier, qui était directeur littéraire, rédacteur en chef de la revue pendant plus d'un quart de siècle, évidemment, chez nous, bon, c'est une perte incroyable, surtout qu'il était tout jeune, il avait 57 ans. Il y a des gens qui nous ont dit, bon, il faudrait renommer le prix Solaris, bon, blablabla. En tout cas, moi, je regardais ça de mon point de vue en disant un prix qui est connu depuis plus de 30 ans, changer de nom, c'est pas vendeur, là. Et puis, à un moment donné, je ne sais pas qui a eu l'idée dans le groupe, mais on s'est dit, oui, mais Joël, comme rédacteur en chef, c'en était un qui, principalement, presque à 100%, c'est Joël qui travaillait avec les... Parce qu'on reçoit beaucoup de nouvelles d'auteurs français, c'est tout à fait correct. Alors, souvent, Joël travaillait avec les auteurs français et faisait retravailler. On a eu un beau témoignage hier d'un auteur que je nommerai pas, mais qui disait que ça n'avait pas été Joël Champetier. Alors, il voyait la petite plaque, puis il dit « ça n'avait pas été de ce gars-là ». Il dit « je n'aurais pas continué ». Et c'est un auteur maintenant en France qui se débrouille fort bien. Alors, en tout cas, on a eu le déclic et on a fait, donc, on s'est dit, alors, faisons une première en francophonie, parce que je pense pas que ça ait jamais existé dans quelque genre que ce soit. C'est que, voilà, une revue québécoise offre un prix de 1000 euros quand même, c'est pas rien, à des auteurs qui ne sont pas de chez nous. Donc, on fait exactement le pendant du prix Solaris. C'est la première année. Les soumissions sont admissibles jusqu'à fin août. Et nous allons annoncer le prix. On a créé le prix aux Utopias l'année passée parce que ça donnait bien. Et on va le remettre l'année prochaine, c'est-à-dire cette année aussi aux Utopias. Et puis on espère évidemment d'avoir une belle participation. Mais je voulais revenir deux secondes sur ce que Jean-Louis mentionnait parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a un léger accent. Et à partir de là, quand on vient en France, c'est toujours... nous, on le sait. Mais ceci dit, on trouve ça très intéressant quand on arrive en France. Et évidemment, il y a des fois, je parle même pas. On me dit « Ah, vous êtes Québécois! » Bon. Mais en littérature, c'est le même problème. C'est que nous avons parlé, nous avons été isolés pendant... Enfin, vous nous avez laissé tomber pendant 300 ans. Nous, on a gardé la langue de Louis XIV. Vous l'avez perdue. Et donc, il y a des différences. C'est tout à fait normal. Quand on arrive en littérature... Encore là, c'est les, ce que j'appelle les points aveugles, les tâches aveugles des éditeurs. C'est que les éditeurs français s'imaginent que le français moyen ne peut pas comprendre ce qu'on dit. Alors, au vocal, je peux comprendre que parfois, avec certains accents du Québec, parce qu'on en a plusieurs, nous, au Québec, des accents, vous pensez qu'on en a seulement qu'un, mais on en a 23 officiellement. À partir de là, on se dit, OK, ouais, on peut comprendre. Mais en littérature, c'est... Bon, c'est des mots. Mais quand vous arrivez avec ce que nous, on appelle le joual, ce qui est la langue vernaculaire, le parler, tout ça, où il y a de l'anglais, où il y a des ce que j'appelle des traficotages de mots, tout ça. Mais quand c'est bien fait, quand c'est dans le contexte, vous apprenez des choses parce que vous le comprenez. Vous ne savez pas le mot, mais à un moment donné, vous l'apprenez. Mais en France, c'est excessivement difficile de passer ça. On apprend que les Belges, parce qu'ils publient avec des éditeurs français, les Belges eux-mêmes s'enlèvent eux-mêmes leur belgicisme, ce qui fait que le français moyen ne sait pas c'est quoi un belgicisme. Même chose avec les Suisses. Nous, au Québec, ben, on a la chance de se publier nous-mêmes au Québec. Quand ça arrive direct, vous pouvez apprendre des mots. Bon. Quand un auteur du Québec, je vais donner le cas de Patrick Sénécal, là, qui... au niveau du Polar, va passer publié au Fleuve Noir. Et on a fait sur le seuil avec les amis de chez Bragelonne. Et ils ont mis des... En tout cas, au départ, il y avait quelque chose comme... Ils voulaient changer 300 quelque chose. Évidemment, il y a eu levé de bouclier. Finalement, ils ont mis des, ce qu'on appelle des notes de bas de page. Et la principale chose qu'ils ont reçue, c'est de leurs lecteurs, dans leur fameux bulletin et tout ça, c'est « Nous prenez-vous pour des crétins? » Alors, ça, c'est encore difficile actuellement de ce que j'appellerais de vous redonner directement en France ce que notre littérature, notre français, qui est un français à 97 % international, mais avec notre couleur, avec nos sacres, avec nos jurons. Nous, c'est l'Église. On avait peur de l'Église, donc ce sont nos jurons. Vous avez peur du sexe, donc c'est vos jurons.
C'est presque un joli mot pour la fin. Et puis il est tôt quand même pour tout ça. Enfin, est-ce que quelqu'un a une question? On a le temps pour une question. Allez, une.
Oui, tout à fait. Oui, c'est science-fiction et fantastique. Et je dirais que c'est à peu près 50-50. Il y a aussi de la fantasy, mais on fait moins de nouvelles de fantasy traditionnellement.
Allez, on en prend.
Merci. Merci. Moi, c'était à propos des termes, des québéquismes dans les textes. J'ai lu votre recueil de nouvelles avec donc M. McAllister. Là.
Oui.
Voilà. J'ai à lire. Et effectivement, j'ai trouvé un québéquisme que je connaissais, c'était Panneur. Il y a un dépanneur dans une nouvelle, donc oui, là j'ai compris ce que c'était, mais je pense qu'un français, là, c'est un peu...
Oui, oui, tout à fait.
Merci.
Ouais, même Jean-Louis fait des québécismes. Formidable.
T'es intégré.
Oui. Allez, vraiment la dernière.
Un mot, et puis après je passe là. Juste pour dire qu'en France, c'est pareil, il y a énormément de mots régionaux.
Exact.
Et le français régional est monstrueusement matraqué. Et quand moi j'ai vécu dans trois régions différentes, il y a vraiment une pauvreté du français moyen, enfin de la langue française moyenne, parce qu'on a évacué tous ces mots extrêmement typés et qu'on peut comprendre. Quand je suis arrivé en Bourgogne et qu'on m'a dit ça, c'est le quinque. Ben, j'ai tout de suite compris que c'était le cinquième bois de la main. J'avais jamais entendu ce mot-là. Et c'est il y a un appauvrissement de la langue française, une espèce de normalisation. C'est la langue de la télévision, en gros. Enfin, voilà. Juste cette remarque.
Oui, moi, je voulais juste te dire que si j'étais venue ce matin à la table ronde, c'était uniquement un pour votre accent et deux pour apprendre des mots.
Félicitations.
Ah ben, si on avait su...
on aurait fait un cours, on aurait fait... On va les remercier. Merci à vous quatre d'être venus. Merci à vous. Bonne continuation.
On aurait jasé en québécois.
Tabarouette.